Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, un bébé sauvé dans les décombres de l'immeuble effondré à Sanary-sur-Mer. Sa mère est aussi sauvée, mais le père a succombé. Deux personnes sont toujours recherchées. Les États-Unis paieront le prix de leur mauvais coup. Réaction de la Chine après l'annonce du boycott diplomatique des JO d'hiver. La France va-t-elle suivre? C'est le souhait du candidat à la présidentielle, Yannick Jadot.
Il serait totalement inadmissible, intolérable, de participer à l'instrumentalisation politique du sport par une dictature féroce.
L'Élysée dit vouloir se coordonner avec les autres pays européens. L'appel de l'OMS à protéger les enfants du Covid en Europe, c'est la classe d'âge la plus touchée. Pour les adultes en France, télétravail fortement conseillé. Les maisons de retraite privées appellent à clarifier la règle pour les soignants. Obligation vaccinale pour la troisième dose aussi, il y a un flou. La campagne présidentielle, officieuse ou officielle, Emmanuel Macron à la rencontre des habitants et commerçants de la ville de Vierzon dans le centre. Valérie Pécresse face aux parlementaires LR. Message de rassemblement sur fond de sondage en hausse. Demain, Emmanuel Macron à Vichy, ville où le passé ne passe toujours pas, nous dira Jean Lebrun dans le vif de l'histoire. Dans ce journal encore, Guy Forget démissionne de la direction de Roland-Garros. Et puis vos rendez-vous dans le 13-14. L'encadrement des loyers, la mesure est-elle efficace? Doit-elle s'appliquer dans d'autres villes? C'est en débat à l'Assemblée. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages dès maintenant, que vous soyez locataire ou propriétaire. Nos deux invités à 13h30, l'adjoint au logement à la mairie de Paris, Yann Brossa, encadrement en place depuis 3 ans, et le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, il souhaite l'application de cette mesure chez lui. Et dans C'est une chanson, le critique gastronomique François Simon nous fait écouter les Beatles, le 13-14. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Près de 10 heures après l'explosion, les sauveteurs cherchent toujours deux personnes dans les décombres de l'immeuble qui s'est effondré cette nuit sur le port de Sanary-sur-Mer dans le Var. On retrouve Olivier Martoc sur place dans un instant. Une centaine de pompiers sont intervenus depuis ce matin. Témoignage du colonel Éric Grouin. Il supervise les secours. Les pompiers sont parvenus à sauver un bébé.
Ce sont les chiens qui ont flairé le bébé et nous avons mis plus de 2 heures à sortir ce bébé. À l'heure où je vous parle, il va bien. La difficulté, elle est d'abord d'aller localiser le bébé qu'on entendait crier déjà, le localiser et ensuite y aller tout en protégeant le personnel parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, le bâtiment est quand même bien effondré et qu'on a encore des risques. Donc il faut travailler en sécurité pour notre personnel.
Bonjour Olivier Martoc.
Bonjour Bruno.
En direct de Sanary, cet enfant a donc été sauvé, tout comme sa mère, mais son père n'a pas survécu à l'effondrement de l'immeuble. Deux personnes sont toujours activement recherchées, Olivier.
Oui, et ce sont les pompiers de l'unité Hussard, spécialisés dans la recherche de victimes dans ce type de conditions extrêmes, qui sont à l'œuvre. Alors ils ont des combinaisons grises, des masques de spéléo, des masques aussi pour se protéger de la poussière, et c'est eux qui étayent et creusent des galeries sous les décombres à la recherche des victimes. Il faut vous dire qu'ici, le tas de décombres, le tas de gravats est de plus de 10 mètres, et qu'évidemment c'est très 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 dangereux. Les personnes que l'on recherche étaient au rez-de-chaussée au moment où il y a eu l'explosion, et donc elles ont des tonnes et des tonnes de gravats qui sont tombés sur elle. Vous avez parlé de deux miraculés, ce sont la mère de cet enfant, ce bébé, qui habitait au 3e étage. Elle a une cheville cassée et l'enfant a été retrouvé, lui. Il était protégé apparemment par le corps du papa qui s'était couché sur lui. Et donc c'est lui dont on entendait le colonel expliquer le sauvetage. Un sauvetage qui a pris des heures et des heures. Ici, je dois vous dire qu'il y a de moins en moins d'espoir, évidemment, ouais, pour retrouver les deux personnes. Une des deux personnes, donc c'était une grand-mère et son fils qui était handicapé. Ce fils handicapé, qui s'appelle Daniel, était pêcheur à Sanary. Et ici, évidemment, l'émotion est très, très vive.
Olivier Martoc, en direct de Sanary-sur-Mer, un périmètre de sécurité est évidemment en place autour de l'immeuble, un gymnase à disposition pour les personnes évacuées, ainsi qu'une cellule médico-psychologique. Peut-on faire comme si la Chine était un régime politique comme un autre et assister tranquillement aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin à partir du 4 février? Non, répondent les États-Unis de Joe Biden. Il se passe un génocide, des crimes contre l'humanité au Xinjiang. C'est ainsi que justifie la Maison-Blanche. Il est question évidemment de la minorité ouïghour. Boycott diplomatique américain, donc les athlètes américains iront à Pékin. Mais il n'y aura pas de représentant officiel du gouvernement. D'autres pays vont-ils suivre? La France dit vouloir se coordonner avec les autres pays européens. Un candidat à la présidentielle en France appelle d'ores et déjà au boycott. C'est l'écologiste Yannick Jadot.
On a aujourd'hui en Chine un génocide contre les Ouïghours, la persécution des démocrates et même l'enfermement des sportifs qui dénoncent des viols. Il serait totalement inadmissible, intolérable, de participer à l'instrumentalisation politique du sport par une dictature féroce. C'est de la responsabilité des sportifs et des fédérations de discuter de leur participation aux JO de Pékin. On sait que la fédération féminine de tennis, pour l'instant, a décidé de supprimer l'ensemble des compétitions de tennis en Chine. Et donc, pour les valeurs du sport, pour les valeurs de la démocratie, ne envoyons pas de ministres et je demande encore une fois au président Macron de ne pas se rendre sur place.
Propos recueillis par Antoine Gignot. Le boycott américain, pour l'instant, est le seul confirmé. Réaction de la Chine, elle ne s'est pas fait attendre. Stéphane Pombrin à Pékin.
Quelques heures seulement après cette annonce d'un boycott diplomatique des Jeux de Pékin, la diplomatie chinoise sort ses griffes et menace les États-Unis de représailles. Les États-Unis vont payer le prix, a lancé tout à l'heure un porte-parole du gouvernement chinois. Pékin parle de préjugés idéologiques et accuse les États-Unis d'intentions malveillantes, selon les termes mêmes utilisés par ce porte-parole. À l'origine de cette décision américaine, les violations des droits de l'homme en Chine, notamment dans la province du Xinjiang à forte minorité musulmane, mais aussi au Tibet et à Hong Kong. Depuis plusieurs semaines, les menaces se faisaient de plus en plus précises, alors que les deux puissances sont déjà à couteau tiré sur de nombreux dossiers, guerre économique, tensions autour de Taïwan et en mer de Chine. D'autres pays déjà lui emboîtent le pas, notamment la Nouvelle-Zélande qui elle aussi a confirmé aujourd'hui un boycott diplomatique. Réponse perfide du quotidien nationaliste Global Times ce matin, connu pour être le porte-parole du Parti communiste. « Moins il y aura de responsables américains », écrit le journal, « et moins il y aura de virus ». Dans cette guerre des mots, les deux pays sont déjà sur le podium. Pékin, Stéphane Pombrin, France Inter.
Bonjour Philippe Lecor.
Bonjour.
Spécialiste du monde chinois à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, quel impact peut avoir le boycott américain et on voit que d'autres pays commencent à suivre?
Bah écoutez, je pense que y a beaucoup de pays démocratiques qui vont d'ailleurs se réunir à Washington cette semaine, ce qui est une autre pierre lancée dans le jardin de Pékin, vont prendre cette décision de ne pas envoyer de représentants officiels. Vous savez que de toute façon, la ville de Pékin est verrouillée puisque à cause de la politique du Covid de le gouvernement chinois, de toute façon, il est très difficile de rentrer et il n'y aura pas de spectateurs étrangers. Oui. Et donc, par conséquent, il y aurait eu très peu de représentants officiels étrangers. Ceci étant, bien entendu, c'est un geste symbolique que fait le gouvernement Biden, qu'il avait déjà annoncé. La Nouvelle-Zélande a effectivement suivi. Je pense que l'Australie, le Royaume-Uni et sans doute beaucoup d'autres pays devraient faire de même. Mais les athlètes, eux, seront là. Ouais. Parce que le comité olympique américain, notamment, a appelé au maintien de la présence américaine à ces JO d'hiver.
Dans le contexte que vous décrivez, de toute façon, peu de monde attendu, des JO d'hiver qui ne sont pas des JO d'été, est-ce que réellement ces démarches embarrassent la Chine ?
C'est-à-dire que du moment que les Jeux sont une réussite, et ils le seront sur le plan de la chorégraphie, on se souvient des JO d'été en 2008, on se souvient de l'Expo universelle de Shanghai en 2010, tous ces événements ont été réussis sur le plan de l'organisation. Et donc, si vous voulez, à l'égard du peuple chinois, qui est finalement la principale cible de ces événements, il n'y aura pas de problème. L'image de la Chine internationale n'est pas très bonne, ça risque de ne pas s'arranger. L'affaire de la tennis woman, la décision de la fédération du tennis féminin de rompre les ponts avec la Chine, y compris d'abandonner tous ces tournois de tennis. Vous savez qu'il y a des millions, 14 millions, je crois, de joueurs de tennis en Chine. Tout ça, évidemment, participe d'une ambiance qui n'est pas très favorable à la dépolitisation du sport, puisque le gouvernement chinois a tendance à utiliser cette expression.
Et d'ailleurs, on note que la Russie appelle à des JO libres de toute politique. Ce n'est pas la première fois qu'on note un alignement Pékin-Moscou sur des sujets comme celui-ci.
Alors, ce qui est ironique, c'est qu'en 1980, comme vous le savez, il y avait eu un boycott contre les JO de Moscou, et puis Moscou avait rétorqué en 1984 en n'allant pas à Los Angeles. Effectivement, il y a une ambiance, disons, alors le président Poutine sera effectivement présent, ce n'est pas surprenant, il est présent à chaque fois qu'il y a un grand événement, il y a une grande proximité politique entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Il y aura sans doute d'autres dirigeants qui pour le coup seront mis en valeur, mais je pense qu'il y aura très peu de dirigeants occidentaux à tout le moins quelques secrétaires d'État au sport, mais je pense qu'il n'est pas, c'est pas le moment de se distinguer, et de toute façon il ne s'agit que des Jeux Olympiques d'hiver, c'est moins important, et même les Jeux Olympiques d'été qui se sont tenus à Tokyo l'été dernier n'ont pas été une grande réussite parce que effectivement il n'y avait pas de public, et on peut dire que les Japonais pensent encore leur plaie dans un contexte sanitaire extrêmement compliqué.
On notera qu'aujourd'hui encore, Philippe Lecor, Reporters sans frontières, publie une enquête sur l'absence de liberté de la presse en Chine. C'est titré « Le grand bond en arrière ». J'ai l'impression qu'il y a moins de complaisance sur les dérives du régime chinois. Est-ce que vous relevez ça aussi, des condamnations de plus en plus fréquentes, et quel a été le point de bascule ?
Vous savez, le régime n'est plus dans une opération de séduction ou de communication à l'extérieur. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure de la réunion des démocraties à Washington dans les tout prochains jours, avec une centaine de pays et parfois de régions, puisque la Taïwan sera représentée. Toutes ces choses, évidemment, agacent Pékin, mais en même temps, le modèle chinois, l'alternative chinoise à la démocratie occidentale est mise en avant systématiquement par le régime, par la propagande, par la presse chinoise. Par conséquent, la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté d'élire ses dirigeants, comme c'était le cas autrefois à Hong Kong. Vous vous souvenez qu'Hong Kong avait des élections, mais tout ça s'est terminé. Bien, toutes ces choses appartiennent un peu au passé, dans la mesure où on est à un peu moins d'un an maintenant du 20e congrès du Parti communiste chinois, durant lequel le secrétaire général sera sacré pour un troisième mandat. Et donc le régime n'est pas prêt à faire des compromis. Et effectivement, en matière de droits de l'homme, la situation est particulièrement calamiteuse depuis 7 ou 8 ans.
Merci Philippe Lecor d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. J'ajoute qu'un sommet virtuel Biden-Poutine se tiendra aujourd'hui. Autre point de tension, il sera notamment question de l'Ukraine. En France, c'est une forte préconisation, ce n'est pas une obligation. Le gouvernement renforce la pression sur les entreprises pour qu'elles passent à 2-3 jours de télétravail par semaine. Toutes les entreprises qui peuvent le faire doivent renforcer le télétravail, affirme la ministre Elisabeth Borne, et elle ajoute il y aura des contrôles la semaine prochaine. On va repasser à un rythme de 5000 contrôles par mois. On était à moins de 1000 en octobre. Comment cet appel est-il reçu ? Élément de réponse avec Benoît Serre. Il est vice-président de l'Association nationale des DRH.
C'est une annonce qui montre que le gouvernement a fait pour le moment, en tout cas, le choix de la confiance aux entreprises pour adapter leur organisation à cette cinquième vague. L'objectif, c'est de tenir jusqu'à Noël. Il faut savoir que la plupart des entreprises qui disposent d'un accord ou d'une charte de télétravail sont déjà entre 2 et 3 jours. En revanche, il y a un certain nombre d'entreprises, soit qui n'ont pas voulu le faire, soit qui n'ont pas pu. Et ça, le gouvernement leur dit, écoutez, de manière un peu exceptionnelle, mettez-vous en modèle de télétravail 2-3 jours, sinon on vous forcera à le faire. Mais c'est vrai que ça désorganise les équipes, les plannings, les réunions qui étaient prévues. Donc ça crée des problèmes d'organisation pratique. Et puis vous avez des gens qui n'aiment pas le télétravail. Donc ils n'ont pas forcément envie de le faire. La NDRH appelle ses 5000 adhérents, donc ça représente du monde, 10 millions de salariés à peu près. On appelle toutes les entreprises qui le peuvent à mettre en place le télétravail et à prendre leur part à cette lutte contre cette cinquième vague. On appelle tous les DRH à prendre leurs responsabilités, mais on est assez optimiste parce qu'ils le font plus tôt.
Un propos recueilli par Kathleen Comte. Parmi les autres mesures annoncées hier, un coup de fil pour les plus de 65 ans qui souhaitent se faire vacciner, pas besoin de rendez-vous. Ce matin, l'Organisation mondiale de la santé en Europe appelle à mieux protéger les enfants. C'est la classe d'âge la plus touchée, dit l'OMS, actuellement par le Covid. En France, hier, le gouvernement a annoncé le passage au niveau 3 du protocole sanitaire à l'école à partir de jeudi. Concrètement, masque obligatoire même dans la cour de récré, moins de brassage à la cantine. Il n'y a pas d'explosion de l'épidémie chez les enfants, assure Jean-Michel Blanquer, mais on teste davantage. Le taux d'incidence est tout de même très élevé, près de 1000 chez les 6-10 ans, soit plus de 2 fois la moyenne nationale. Des enfants touchés, des enseignants et encadrants aussi. Exemple, à Négronde, près de Thiviers, en Dordogne, 3 membres de l'équipe périscolaire, les 2 cantinières, l'une des auxiliaires en maternelle, sont contaminés après 2 cas positifs chez des élèves. Il y a 60 élèves dans l'école. Résultat, Lise Roseveille, les élus eux-mêmes s'organisent pour faire tourner la cantine.
Charlotte sur la tête, la mère, Françoise de Carpentrie, s'active, un plat dans chaque main.
C'est du saucisson, vous nous dites après, voilà, si vous aimez. Hein.
Habillée de la tête aux pieds, l'édile et son adjointe ont l'air de vraies cantinières. Mais il y a encore quelques rodages.
C'est surtout qu'il ne faut pas oublier de mettre la charlotte, comme j'ai pu le faire.
Il faut penser aux gants, il faut penser à charlotte, il faut penser au tablier. Normalement, on devrait même avoir les chaussures, mais on ne les a pas mises.
C'est des nouvelles habitudes.
Bah ouais, mais bon, on ne peut pas prendre les chaussures des cantinières, nous on n'en a pas.
Le plat de pâtes arrive tout droit de l'EHPAD d'à côté, et en cuisine, Anicès l'enfourne avec attention.
Ah ben c'est stressant, parce que si on fait une bêtise, les enfants le remarquent vite.
L'élu à la retraite est encore là jusqu'à 15h pour enchaîner les trois services.
Depuis deux semaines maintenant, c'est toujours là. Nettoyer les tables, désinfecter les tables, c'est sportif.
Mais il n'était pas question de baisser les bras pour la mère, Françoise de Carpentrie.
Pour les parents qui travaillent notamment, et puis pour les enseignantes, pour la continuité pédagogique, ça c'était important de ne pas fermer.
Alors les deux élus ne sont pas prêtes de raccrocher le tablier.
S'il faut continuer la semaine prochaine, on le fera, mais je crois qu'on va terminer sur les genoux.
Reportage France Bleu Périgord, la vaccination des enfants 5-11 ans les plus fragiles commencera le 15 décembre. 360 000 bambins sont concernés. Pour les autres, ce pourrait être quelques jours après, le 20 dans les vaccinodromes, si la Haute Autorité de Santé et le Comité d'éthique donnent leur feu vert. L'OMS appelle donc à protéger les enfants. Elle considère par ailleurs la vaccination obligatoire en population générale comme un recours de dernier ressort absolu. À propos d'obligation vaccinale, la déléguée générale du CINERPA, les maisons de retraite privées, pointe une ambiguïté. Les soignants, avant la troisième dose, étaient soumis à l'obligation vaccinale. Le rappel est-il lui aussi obligatoire ? Florence Arnaise-Momet appelle à clarifier le message.
Il nous faut une dose de rappel obligatoire pour les salariés des structures sanitaires et médico-sociales pour continuer à avoir la protection maximale. Aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire. Un salarié peut nous dire « Non, je ne me fais pas vacciner en dose de rappel ». On pourra l'imposer à nos visiteurs et on aura l'obligation de l'imposer à nos visiteurs, mais on n'aura pas la possibilité de l'imposer à nos salariés. Donc il ne faudrait pas qu'une zone de flou s'installe. On voit bien que le gouvernement veut prendre des décisions, mais il ne sait pas trop comment gérer cette nouvelle période de restriction. On a le sentiment de prendre du retard, puisque nous souhaitons évidemment pouvoir maintenir des fêtes de Noël dans nos établissements.
Propos recueillis par Alice Cachaner. On observe depuis quelques jours ce qui est peut-être le début d'un ralentissement de la progression de l'épidémie. Propos de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement ce matin sur France Inter, on notera la prudence. Alors on a vu la cinquième vague monter ces dernières semaines jusqu'à atteindre quasiment les 50 000 nouveaux cas quotidiens. Les malades admis à l'hôpital sont de plus en plus nombreux, plus de 2 000 en soins intensifs. Le nombre de places théoriques, évidemment extensibles si besoin, est de 5 000. Après d'autres hôpitaux, ceux de Marseille sont passés hier soir en plan blanc. Dans ces conditions, Véronique Julia, qu'est-ce qui permet de parler d'un léger affaissement de la cinquième vague ?
Ce ralentissement de la progression, Olivier Véran l'avait déjà signalé hier. Le ministre de la Santé a constaté en effet que le nombre de cas augmentait il y a quelques jours encore de 60% par semaine et n'augmente plus désormais que de 40%, ce qui tend d'après lui à prouver que les efforts payent déjà. Ces chiffres, c'est en effet ce qui ressort des pointages de ces derniers jours, mais c'est quand même une tendance à interpréter avec prudence, car l'épidémie continue d'augmenter très rapidement, avec une moyenne de plus de 40 000 cas par jour. Il suffit de rien pour que la progression réaccélère, et surtout les nouveaux cas d'aujourd'hui vont former les malades qui vont entrer en réanimation dans 15 jours, ce qui veut dire que la situation ne va pas s'arranger dans les hôpitaux dans les trois prochaines semaines. Le taux d'incidence en France est désormais de 431 pour 100 000 habitants, le taux de reproduction de 1,51, 42% des lits en soins critiques sont occupés par des patients Covid. Ce qu'a rappelé hier soir Jean Castex, c'est que d'après les projections de l'Institut Pasteur, en baissant de 10% le niveau de la transmission par le respect des gestes barrières et le port du masque notamment, on réduira de moitié le niveau du pic et donc la pression subie par l'hôpital.
Et les professionnels de deux secteurs économiques sont particulièrement inquiets en cette fin d'année. Les discothèques qui devront à nouveau fermer et pour 4 semaines au moins à partir de vendredi. Sur France Inter ce matin, le porte-parole du gouvernement promet des compensations financières. Inquiets aussi, on en parlait il y a quelques jours dans ce 13-14, les traiteurs qui enregistrent beaucoup d'annulations de commandes style repas de fin d'année. Et des représentants des deux professions sont reçus à Bercy. Au fil fil des mois, on mesure toutes les conséquences économiques et sociales de cette pandémie. Le laboratoire sur les inégalités mondiales, qui regroupe une série d'économistes, dont Thomas Piketty, publie un nouveau rapport aujourd'hui. Delphine Simon, la pandémie a accru encore les inégalités.
Oui, après 18 mois de Covid, le monde est encore plus polarisé qu'avant la crise, expliquent les auteurs du rapport. Le patrimoine des milliardaires a augmenté de 3600 milliards d'euros. À l'inverse, 100 millions de personnes supplémentaires ont rejoint les rangs de l'extrême pauvreté. Selon le rapport, les 52 plus grosses fortunes mondiales ont vu la valeur de leur patrimoine grimper plus 9% par an depuis 25 ans, grâce à des placements essentiellement financiers. Le club des 10% les plus riches de la planète capte 52% des revenus mondiaux. La moitié la plus pauvre de l'humanité, elle, ne gagne que 8,5%. Et la France n'échappe pas à cette tendance. Les 1% les plus riches possèdent plus qu'il y a 25 ans, alors que les plus pauvres ont vu leur part diminuer. Si l'Europe est le continent le plus égalitaire devant les États-Unis, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord décrochent la palme des régions les plus inégalitaires au monde. Pour les auteurs, ce n'est pas une fatalité, mais une question de choix politique. La solution est, selon eux, toute trouvée, une fiscalité mondiale plus juste.
Un classique de l'économie française, hélas, le déficit commercial, différence entre importation et exportation. Il s'est encore creusé en octobre, 7,5 milliards d'euros. Dans une interview aux Échos, le haut-commissaire au plan François Bayrou alerte sur cette plaie récurrente. Situation inacceptable, estime-t-il, dans un pays du niveau technologique de la France et avec sa capacité d'investissement. Comment faire campagne sans être officiellement candidat, alors que la liste des postulants à l'Élysée est un peu plus complète depuis ce week-end? Emmanuel Macron a entamé ce matin un déplacement de 2 jours pour parler des sujets du quotidien avec des Français habitant dans des villes petites ou moyennes, département du Cher et de l'Allier, Vierzon dans le Cher ce matin. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Le président à la rencontre des habitants et commerçants du centre.
Une visite très encadrée, Bruno. Centre-ville bouclé, rue quasi déserte. Certains passants sont même tenus à l'écart. Et cette manifestation d'une vingtaine de soignants repoussée par les CRS. Pendant ce temps, pour le président, les échanges sont bienveillants.
Merci d'être venu dans le Cher, monsieur le président.
Je suis ravi d'être
c'est
là.
C'est la première fois.
Bonjour, monsieur.
Dans cette rue de la République, des commerces à l'abandon, d'autres qui viennent d'ouvrir. Emmanuel Macron vient justement promouvoir son bilan, 5 milliards d'euros pour redonner vie à 200 centres-villes, dont celui de Vierzon.
Un bureau de poste qui a fermé, on a un hôpital qui est en souffrance, il y a une manifestation du médico-social qui est là-bas.
Vous savez, c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça qu'on va continuer de se battre.
Bah je sais bien, mais il faut aller encore plus vite, plus fort, et puis sortir le carnet de chèques surtout.
Carnet de chèques que ses adversaires lui reprochent déjà de sortir bien trop souvent en ce moment. Alors, président en campagne, non, président dans son rôle, répond Emmanuel Macron.
Depuis 4 ans et demi, chaque fois que je me déplace, je vais au contact de nos compatriotes pour écouter les difficultés, parfois les colères, d'autres fois les propositions ou les enthousiasmes, mais j'ai toujours fait ça.
Ouais, mais là vous êtes en campagne
depuis le début.
Il n'est pas en campagne, il est à la ville quand même.
Vous allez bien.
Je sais bien qu'on en réalité, il ne faut pas exagérer.
Pas en campagne, à la ville, plaisante le maire, ces villes petites et moyennes, cette France qui se sent bien souvent abandonnée et à qui le chef de l'État, à l'approche de l'élection, doit montrer qu'il ne l'oublie pas.
Simon Le Baron en direct de Vierzon avec Benjamin Thuot pour France Inter. Emmanuel Macron, pas officiellement candidat, toujours en tête des intentions de vote dans 2 sondages. Faut-il rappeler que ce ne sont que des photographies de l'opinion à un instant donné. 3 jours après sa victoire dans la primaire LR, les 2 enquêtes par ailleurs sont flatteuses pour Valérie Pécresse. Sondage IFOP, Emmanuel Macron 25% d'intention de vote. Valérie Pécresse à égalité avec Marine Le Pen à 17%. La candidate de droite gagne 3 points en un mois. Éric Zemmour à 13, Jean-Luc Mélenchon à 9. Enquête Harris interactive, Emmanuel Macron 23% d'intention de vote. Marine Le Pen 18, Éric Zemmour et Valérie Pécresse à 14. La candidate de droite était ce matin au siège de son parti Les Républicains. 200 parlementaires étaient venus entendre. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Une nouvelle fois Élodie, message de rassemblement.
Oui, c'est le message de la semaine avec des déplacements chez tous ses concurrents au congrès. Et ce midi donc au siège LR, ce buffet où étaient conviés tous les parlementaires, vous l'avez dit, pour savourer autour de quelques petits fours la petite hausse sondagière post-congrès et pour écouter Valérie Pécresse, un discours rassembleur, nous raconte-t-on, et une photo de famille d'Éric Ciotti à Gérard Larcher pour jouer l'unité. Nous devons désormais montrer notre convergence idéologique, a notamment lancé le président de groupe groupe à l'Assemblée, Damien Abad, qui soutenait Xavier Bertrand. Une unité qui passe aussi par un soupçon de fermeté. Ce matin, lors du conseil stratégique qui a précédé, deux vice-présidents ont été démis. Gaël Perdriot, à cause de ses propos critiques envers Éric Ciotti, et Guillaume Pelletier pour son tweet élogieux après le discours d'Éric Zemmour à Villepinte, une sanction méritée pour le sénateur Roger Karoutchi.
À un moment, vous ne pouvez pas être vice-président et utiliser le titre de vice-président du parti, parce que c'est un titre dans le parti, c'est une fonction qu'il faut évidemment incarner, respecter. Donc voilà, il veut s'exprimer à titre personnel, il a parfaitement le droit, mais alors il ne peut plus être vice-président.
Un début de clarification donc chez les LR qui passe enfin par la rupture attendue avec le mouvement conservateur ex-Sens commun dont la présidente Laurence Trochu était sur scène dimanche au meeting d'Éric Zemmour. On ne peut pas avoir le cul entre deux chaises, vient de commenter le numéro 2 du parti, Aurélien Pradier.
Élodie Forêt en direct du siège des LR. Quant à Éric Zemmour, il condamne toutes les violences qui ont perturbé son meeting dimanche, mais il qualifie les militants des SOS racistes qui se sont fait agresser de provocateurs, chiens truffiers des subvention. Autre mot à la Zemmour à propos d'Emmanuel Macron, c'est le vide, c'est un adolescent qui n'est pas fini. Un maire de la Manche agressé à son domicile. Il y a les candidats à la présidentielle, il y a les élus locaux. Il s'appelle Bernard Denis, maire de Saint-Côme-du-Mont. Le mur de sa maison recouvert de menaces de mort, une tentative d'incendie également. Et il n'y a pas de doute, Benoît Martin, c'est son engagement politique qui est visé.
Les inscriptions taguées dans la nuit sur les murs de la maison du maire ne laissent aucun doute sur le caractère politique de cet incendie. On pouvait y lire « Le maire soutient Macron à mort ». Et un peu plus loin, « Zemmour président », avec d'ailleurs un seul M au nom du candidat. Les messages ont été depuis effacés par les agents municipaux. En revanche, les conséquences de l'incendie volontaire allumé dans le garage ouvert mitoyen de la maison sont bien visibles. Structure en bois calcinée, goudron noirci. Ici, deux voitures ont totalement brûlé. Une troisième a été légèrement touché par les flammes. C'est d'ailleurs l'explosion des pneus sous l'effet de la chaleur qui a réveillé le maire et plusieurs voisins au milieu de la nuit. Ce matin, la victime a porté plainte à la gendarmerie de 40 ans. Il y a une semaine, Bernard Denis avait participé sur sa commune à la réunion de lancement d'un comité local de soutien au président Macron. Les habitants de Saint-Côme-du-Mont y voient une relation de cause à effet, mais ils font surtout part de leur incompréhension. Dans cette commune de moins de 600 habitants, ils n'ont jamais vu ça. C'est lamentable, jugent la plupart d'entre eux.
Voilà pour les précisions à propos de cette agression contre le maire, contre son domicile. À propos d'Éric Zemmour encore, la garde à vue de son agresseur dimanche à Villepinte se poursuit. Guy Forget n'est plus le directeur de Roland-Garros, ni celui du Masters 1000 de Paris-Bercy. Il quitte ses fonctions à 56 ans, Fabrice Abgral.
Guy Forget avait été nommé directeur du Masters 1000 de Paris-Bercy en 2012. C'est cette année-là qu'il rejoint parallèlement le comité de pilotage de Roland-Garros avant d'en devenir le directeur en 2016. Guy Forget était alors l'homme fort du tournoi parisien quand Bernard Guidicelli est élu président de la FFT en 2017. Forget est alors confirmé à son poste et il devient l'homme du président, celui qui avait la légitimité sportive et médiatique que Bernard Guidicelli n'avait pas. Le contrat de Guy Forget prenait fin le 31 décembre prochain. Il était actuellement en pleine renégociation avec Gilles Moreton, le nouveau président de la FFT, et Amélie Oudéa-Castéra, la directrice générale. Il y a quelques semaines, le nom de Guy Forget a été cité dans l'affaire des Pandora Papers, une vaste enquête dans laquelle plusieurs personnalités sont soupçonnées de fraude et d'évasion fiscale. Le 5 novembre dernier, les membres du comité d'éthique de la FFT avaient blanchi Guy Forget, mais ils lui avaient demandé aussi de prendre les bonnes décisions si l'atteinte éventuelle à sa réputation devait rejaillir sur celle de la fédération.
Et le nom de son successeur sera connu avant la fin de l'année. Dans un instant, la météo.
How did we get here? Comment en sommes-nous arrivés là? Comment pouvions-nous renouer avec une histoire américaine plus fédératrice? J'ai souvent parlé de ce sujet avec mes amis. Et l'un de ces amis est monsieur Bruce Springsteen.
Born in the USA, le dialogue passionnant entre Barack Obama et Bruce Springsteen. Un livre exceptionnel aux éditions Fayard.
France Inter aime...
West Side Story, le nouveau film de Steven Spielberg.
I never seen you before. I'm a Puerto Rican.
Is that okay?
New York 1957. Deux bandes rivales et une histoire d'amour interdite.
I'm a grown up now, Bernardo. I'm gonna think for myself.
West Side Story, le 8 décembre au cinéma, un film France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Et c'est encore perturbé.
Et oui, avec de bonnes pluies qui circulent de l'océan vers le Pas-de-Calais, la région parisienne, le centre Val-de-Loire et le sud-ouest, avec du vent jusqu'à 70 km à l'heure dans les terres, 90 à 110 sur le littoral. On a eu déjà 98 km à l'heure à Granville, 106 à la pointe du Raz. Ouais. Sur les Pyrénées, il neige bien au-dessus de 2200 mètres. Notez quand même que la Bretagne et la Vendée vont retrouver des éclaircies. Le temps très perturbé va glisser vers l'est ce soir et cette nuit. Il neigera sur les massifs autour de 1000 à 1300 mètres. En attendant, sur le nord-est, c'est très voilé cet après-midi. On a quelques degrés de plus qu'hier, souvent 6 à 10 degrés, 11 à 15 de la Bretagne vers le sud-ouest et vers la Méditerranée. Et puis demain, on aura encore des pluies sur le flanc est, sur la Corse également, de la neige en montagne et ailleurs un ciel d'averse qui prendra le relais après cette perturbation et du grésil près des côtes.
Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
C'est une mesure qui s'applique depuis 3 ans à Paris et aujourd'hui dans une partie de sa proche banlieue, en place aussi à Lille, Lyon, Villeurbanne et combien d'autres à l'avenir. Dans le cadre de l'examen de la loi de décentralisation au Parlement, des propositions d'amendements sont déposées pour élargir ce qui n'est encore qu'une expérimentation, l'encadrement des loyers. L'agglomération de Bayonne au Pays Basque par exemple est candidate. Quelle est l'efficacité de la mesure? Fait-elle baisser les prix des loyers? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique réagir pour vos questions et témoignages. Est-ce que vous avez du mal à trouver un logement avec un loyer raisonnable où que vous habitiez? Ou peut-être êtes-vous propriétaire? Est-ce que la mesure est contraignante pour vous? Deux invités pour dialoguer avec vous jusqu'à 13h45. Yann Brossat, adjoint à la maire de Paris en charge du logement. Bonjour Yann Brossat.
Bonjour.
Vous êtes par ailleurs directeur de campagne de Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle. Et puis on devrait retrouver dans les minutes à venir Jean-René Etchegaray, le maire UDI de Bayonne et président de l'agglomération. Yann Brossat, peut-être pour camper le décor, faut rappeler en quoi consiste cette règle de l'encadrement du loyer.
L'encadrement des loyers, il repose sur un principe simple, c'est que dans un certain nombre de territoires où les loyers sont particulièrement chers, on fixe une limite et on interdit aux propriétaires de dépasser un certain niveau de prix au mètre carré. L'objectif, c'est tout simplement de lutter contre la cherté des loyers et en particulier de lutter contre un certain nombre d'abus avec parfois des propriétaires qui appliquaient des loyers tout à fait inacceptables.
Et ça se joue au moment du renouvellement du bail, évidemment.
Absolument, ça se joue au moment du renouvellement du bail avec la possibilité pour le locataire de contester son bail une fois signé s'il juge qu'il est abusif.
Est-ce que ça marche? Est-ce que ça permet de faire baisser les prix?
En tout cas, ce que nous constatons à Paris, c'est que avant l'encadrement des loyers, avant 2019, les loyers explosaient. Et depuis que l'encadrement des loyers a été mis en place, nous avons observé un ralentissement des loyers, voire une baisse, puisque d'après Se Loger, qui est une plateforme bien connue, sur un an, on a eu une baisse de 4,5% des loyers. Donc très clairement, il y a une efficacité. Je pense que avec plus de contrôle et plus de sanctions, le dispositif pourrait être encore plus efficace. Mais en tout cas, oui, il fonctionne.
On y revient. Bonjour Jean-René Etchegaray.
Bonjour.
Maire de Bayonne. Alors Bayonne n'est pas Paris. Pourquoi souhaitez-vous, chez vous, l'application de cette mesure? Qu'est-ce qui explique? Y a-t-il une flambée des prix à Bayonne?
Bien sûr, il y a une flambée des prix, pas spécialement d'ailleurs à Bayonne, mais sur toute la côte basque et Bayonne en faisant partie, mais depuis la frontière franco-espagnole jusqu'au département des Landes, et une partie des Landes étant également concernée par l'affaire, nous sommes effectivement dans un territoire en forte tension immobilière, ce qui fait qu'effectivement une bonne partie de notre population ne peut plus accéder ni à la propriété, ni à la location compte tenu de la cherté des prix.
Alors, tension immobilière, c'est l'attractivité de l'Ouest du Pays Basque. Il y a un effet TGV, il y a un effet changement de vie depuis le Covid.
Alors, l'effet TGV a certainement joué pour ce qui concerne la ville de Bordeaux. Pour ce qui nous concerne, certainement moins, même si nous sommes désormais à moins de 4 heures de la capitale. Donc, on a un effet qui est tout simplement l'attractivité du territoire. Et une chose qui se vérifie, bien évidemment, d'année en année. Nous avons une augmentation du coût des loyers qui est considérable. Nous avons, par exemple, des prix des loyers qui nous rapprochent des grandes métropoles régionales comme Lille, Grenoble, Nantes ou Toulouse.
Alors, Yann Brossat, à Paris, donc, c'est en place depuis 3 ans. 35% des loyers, selon une étude de la Fondation Abbé Pierre, restent au-dessus du plafond légal. Alors la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y en a les deux tiers qui sont dans les clous. 200 euros de dépassement en moyenne, c'est ça à peu près, donc ça fait 2400 euros par an. Comment on explique que ce soit, voilà, qu'il y ait encore un tiers des loyers qui ne soient pas dans les clous ?
D'abord, ce que j'observe, c'est que avant, il y a encore quelques années, il y avait encore plus de dépassements et encore plus de loyers abusifs. Donc, malgré tout, l'encadrement des loyers permet quand même de lutter contre les abus. Néanmoins, il y a un certain nombre de propriétaires, un peu plus d'un tiers, qui continuent à pratiquer des loyers abusifs, notamment d'ailleurs sur les petites surfaces, ce qui est très injuste parce que ce sont souvent des jeunes travailleurs qui ont des tout petits revenus et qui se retrouvent avec des loyers tout à fait scandaleux. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des abus ? Pour une raison simple, il n'y a pas assez de contrôle et il n'y a pas assez de sanctions. Vous savez, c'est un peu comme si on avait mis en place des limitations de vitesse sans radar et sans amende. Inévitablement, vous avez des gens qui continueraient à abuser, à rouler à 200 km/h sur l'autoroute. Ben, c'est la même chose. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de sanctions. D'ailleurs, sur l'année dernière, le préfet de Paris a prononcé 9 sanctions, 9 amendes de 1500 euros. C'est trop peu d'amendes et c'est des sommes trop faibles.
Donc, dans le cas du débat sur la loi de décentralisation, ça fait partie des choses que vous demandez, qu'on mette en place plus de contrôle et des sanctions plus dissuasives.
Ce que je demande est très simple. Je demande au gouvernement de nous laisser faire. En l'occurrence, l'État n'effectue pas ses contrôles, pas suffisamment. Et donc, nous proposons une chose très simple, que l'État permette aux communes qui appliquent l'encadrement des loyers et qui souhaitent qu'ils puissent mieux s'appliquer, d'effectuer ces contrôles. Nous elle-même. Avons les moyens de le faire. Oui. Donc, l'État ne le fait pas, qu'il nous laisse le faire, ce sera beaucoup plus efficace.
Jean-René Etchegaray, vous en attendez quoi de cette mesure à Bayonne ? Alors évidemment, tasser la flambée des prix de l'immobilier. Si vous le faites seul à Bayonne et que les autres ne le font pas, est-ce que ça peut marcher ?
Alors oui, je pense que alors la différence qu'on a par rapport à Paris, c'est que nous n'avons pas encore été autorisés à pratiquer l'encadrement des loyers, tout simplement parce que la loi Elan ne nous le permettait pas. Nous avons demandé le prolongement de l'application de la loi Elan sur l'expérimentation pour faire en sorte que nous puissions nous aussi bénéficier de cet encadrement des loyers. Si la loi 3DS est votée en tenant compte de l'amendement que nous avons suggéré, eh bien nous pourrions effectivement pouvoir bénéficier de ce dispositif. Maintenant, il faudra bien se mettre d'accord sur la zone sur laquelle effectivement on pratiquera cet encadrement. Et ce zonage doit tenir compte effectivement aussi de la situation du rétro-littoral. Parce que les effets de bord, vous les imaginez assez facilement, seront là aussi extrêmement importants. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons bien réfléchir sur ce que doit être le périmètre dans lequel s'appliquerait cet encadrement.
Je voudrais vous soumettre cette remarque qu'on a sur l'application. La loi ne prend pas en compte les zones rurales très touristiques. Il existe des petits villages où la spéculation foncière est énorme depuis quelques années. Les jeunes, les actifs, ceux qui veulent faire vivre les villages à l'année, ne peuvent pas se loger, ni acheter, ni louer. Le confinement n'a rien arrangé. Qu'en dites-vous ?
Oui, c'est tout à fait exact. On constate, y compris à l'intérieur du Pays Basque, et à presque une heure de route de la côte, des villages dans lesquels nous avons 30-40% de résidences secondaires et qui posent effectivement, pour ce qui nous concerne, un véritable problème. Sachant que les résidences secondaires sont beaucoup plus nombreuses, vous l'imaginez assez facilement, malgré tout, sur la côte, où elles peuvent représenter jusqu'à 50, voire 55% des logements.
Alors qu'à Bayonne, c'est moins de 5%, c'est ça, les résidences secondaires ?
Tout à fait. Ouais. Nous sommes à 4 et quelques pourcents de résidences secondaires, mais la plupart des autres villes alentour, et notamment d'Anglet, de Biarritz, de Saint-Jean-de-Luz ou d'Andaille, qui sont sur la côte, elles ont plus de 40% de logements en résidence secondaire.
Yann Brossat, alors on entend le maire de Bayonne dire ça doit être pour des villes comme nous cet encadrement. Vous dites les villes doivent pouvoir mener les contrôles elles-mêmes. Il y a un autre écueil aux dispositions qui existent aujourd'hui, c'est qu'il y a des exceptions. On peut aller au-delà du plafond si on a, je crois, des caractéristiques exceptionnelles. Sauf que c'est quoi une caractéristique exceptionnelle ?
Vous avez raison, ça c'est la manière dont la loi a été conçue, et la loi a effectivement prévu la possibilité pour le propriétaire d'appliquer un complément de loyer. Et ce complément de loyer, en principe, il doit se justifier par des caractéristiques exceptionnelles. Le problème, c'est que ça a quand même un peu transformé le dispositif en passoire. Vous savez, je prends souvent cet exemple, mais il y a quelques mois, j'ai convoqué dans mon bureau le patron d'une très grosse foncière qui appliquait des loyers de 50 euros du mètre carré. Et quand je lui ai demandé comment il justifiait les 50 euros du mètre carré, il me disait « Oui, mais les appartements contiennent une machine à laver. » Honnêtement, une machine à laver, c'est pas une caractéristique exceptionnelle qui justifie ce complément de loyer. Donc, je pense qu'il y aurait besoin de préciser ce qu'on appelle le complément de loyer. Ça peut se justifier s'il y a une vue tout à fait incroyable. Ça ne se justifie pas par la présence d'un peu d'électroménager.
Jean-René Tchégaray, autre question, et je la poserai à Yann Brossat aussi pour Paris. Est-ce que l'origine de la hausse de l'immobilier, c'est un déséquilibre offre-demande? Est-ce que ça passe pas d'abord, faire baisser les prix, par plus de construction?
Alors, nous avons, nous, déjà fait le constat que construire plus ne signifiait pas nécessairement construire mieux. Je m'explique. Nous avons, nous, un rythme de production qui est extrêmement important. Et ce rythme de production, en réalité, nous fait constater, in fine, que les logements qu'on produit ou qu'on construit, ce sont des logements qui ne sont pas forcément accessibles à la population de notre secteur. Et l'attractivité du territoire expliquant évidemment cela, la loi de l'offre et de la demande étant évidemment ce qu'elle est, et donc faisant donnant le résultat suivant, à savoir que ce sont les personnes qui ont le plus de revenus qui arrivent à accéder à la propriété, voire même à la location. Donc, nous avons, nous, mis en place un programme local de l'habitat à l'échelle de la communauté d'agglomération Pays Basque, c'est-à-dire l'intégralité des villes du Pays Basque français, 158 au total. Et ce PLH est ambitieux puisque nous prévoyons de construire 1200 logements sociaux par an, dont 800 en locatif et 400 en accession sociale ou en bail réel solidaire. Eh bien, cet objectif ambitieux, on ne peut l'atteindre que pour autant que, bien sûr, on construit aussi davantage, et pas seulement des logements sociaux. En réalité, nous avons une situation qui est la suivante, c'est que il faut que l'on fasse en sorte qu'il y ait une meilleure adéquation entre les besoins que notre population a et ce que l'on produit. Or, dans un système libéral comme le nôtre, et comme la France le connaît, où le droit de propriété est inviolable et sacré, et je ne le conteste pas dans le principe, on se retrouve avec des difficultés de levier considérables, et qui fait qu'aujourd'hui, on continue à aggraver la situation, au point que l'on vit au Pays Basque ce qu'on pourrait presque appeler une forme d'expropriation de fait de la population locale.
Et je précise, en un peu plus de 25 ans, corrigez-moi si je me trompe, votre ville a pris plus de 10 000 habitants, hein, c'est ça ?
C'est exact. Ouais.
Yann Brossat, autre remarque sur l'appli, les propriétaires vont tous mettre leur logement en Airbnb si l'encadrement des loyers continue. Est-ce que c'est mieux, nous dit Laure ? Ça fait partie de vos combats Airbnb ?
Non, parce que c'est illégal et qu'ils seront rattrapés par la patrouille. Je vous rappelle qu'à Paris, nous avons des dizaines d'agents qui sont là pour vérifier que les logements mis en ligne sur Airbnb ne le sont pas de manière illégale. Et que d'ailleurs, la ville de Paris a gagné tous ses combats contre Airbnb. Nous avons d'ailleurs fait condamner cette plateforme à plus de 8 millions d'euros. Donc les petits malins qui se livraient à ce trafic-là finiraient devant le tribunal avec à la clé une amende de 50 000 euros par appartement loué illégalement. Donc je leur conseille vraiment pas de faire ça.
Construire davantage ou libérer du logement à Paris, c'est possible ou pas ?
Il faut construire, bien sûr, et à Paris, on continue à construire. Mais enfin, il faut aussi dire la réalité. Paris est une ville très pleine. Nous sommes la ville la plus dense d'Europe. Vous avez très peu de foncier qui vous permet encore de construire. Donc, miser simplement sur une augmentation de l'offre de logement, c'est totalement à côté de la plaque. Et donc, on a évidemment besoin de construire, mais à côté de ça, on a besoin de réguler le marché. Et penser que le jeu de l'offre et la demande, le jeu du marché, permet de régler le problème du logement, honnêtement, c'est comme croire au Père Noël. Aujourd'hui, plus personne dans les grandes métropoles européennes ne pensent que ces logiques-là permettent de tout résoudre. Donc on a besoin d'intervenir sur le marché et c'est justement l'objectif de l'encadrement des loyers.
Jean-René Tchégaray, il nous reste une poignée de secondes pour cette dernière question sur l'appli. À quand une vraie taxe sur les résidences secondaires ? Alors vous nous disiez qu'à Bayonne, moins de 5%, mais qu'ailleurs, au Pays Basque, ça peut atteindre 50%. Ce serait dissuasif, ça permettrait de faire tomber la pression, une taxe plus élevée sur les résidences secondaires ?
Eh bien, nous avons déjà sur la côte beaucoup de communes qui ont institué cette taxe sur les résidences secondaires. Vous savez qu'elle peut aller jusqu'à 60% d'augmentation de la taxe additionnelle sur les résidences secondaires. Bayonne est actuellement à 35%, nous passerons à 45%, et la plupart des villes de la côte se trouvent à 60%. Eh bien, je vais vous dire une chose, ce n'est pas dissuasif. Le constat que l'on fait, là où on a appliqué effectivement cette taxe additionnelle pour les résidences secondaires, on n'a pas constaté une diminution du nombre de résidences secondaires.
Merci à tous les deux, Jean-René Etchegaray et Yann Brossat, d'avoir participé à cette émission. 13h44.
France Inter. Le 13-14.
Dans 10 minutes, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Nous irons à Vichy.
Comme le président de la République, c'est assez rare qu'un président s'arrête dans l'ancienne capitale de Pétain.
Ce sera dans 10 minutes. Avant cela, 5 Français dans la campagne. Notre feuilleton, nous entendons aujourd'hui une socialiste désabusée. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Cela fera 31 ans demain que John Lennon est mort, assassiné. Il avait 40 ans. Et c'est par cet événement que commence le roman que vient de publier aux Équateurs le critique gastronomique François Simon, roman qui s'appelle Le silence de l'amour.
Une des balles perdues tirées par Mark Chapman sur John Lennon le 8 décembre 1980 a traversé l'Atlantique. Elle m'a atteint en plein cœur. Voilà les deux phrases inaugurales de ce livre. Elles donnent la tonalité, disent à quel point le chanteur comptait pour l'auteur. Et la suite, c'est un voyage. Celui de François Simon dans les pas de son idole et dans les pas de celle qui partagea les 12 dernières années de sa vie.
Je voulais raconter une histoire charmante, celle de John Lennon et Yoko Ono, qui décidèrent 3 étés durant d'aller se réfugier au Japon, à la montagne, dans les montagnes de Kaolizawa, histoire d'avoir la paix. Ils ont appelé ces années-là le silence de l'amour, parce qu'il ne se passait rien, comme il ne se passe rien dans nos vacances réciproques. On s'ennuie souvent, on tourne en rond, et par le plus grand des hasards, ils se sont retrouvés dans la même ville, une sorte de Saint-Gervais, une villégiature de montagne. Il y a un air magnifique avec les sapins, tout ça, c'est merveilleux. Et donc, m'ennuyant, je suis allé sur les traces de la vie de John Lennon. Et là, je me suis aperçu, en fait, qu'il avait totalement imprégné ma vie. Et en grattant, comme un chien, je suis tombé sur un os. Et l'os, c'était moi.
C'est un titre de 1967 qu'a choisi François Simon, I Am the Walrus, des Beatles.
Traduction, je suis le morse, je suis le porteur d'eux, ce sont les porteurs d'eux, je suis le morse. Bon boulot, le texte n'a a priori aucun sens, non. Bruno, mais pour François Simon, c'est l'une des forces de cette chanson.
John Lennon, qui jusqu'alors faisait des chansons qui étaient de plus en plus personnelles, lui racontaient des histoires, là il a vraiment écrit quelque chose d'incompréhensible. Des juxtapositions d'images saugrenues. Il avait fait ça parce que, se sachant étudier dans les écoles, il s'est dit, cette fois-ci, ils vont vraiment en baver, pour rester poli. Et c'est une réussite. Et justement, moi, je comprenais rien. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, j'ai compris que l'incompréhension allait devenir l'une des clés de ma vie. Ça allait m'aider à avancer, enfin. Et j'aimais bien ces garçons aux cheveux longs. Enfin, à l'époque, c'est tout raisonnable. C'est un peu mieux que d'être bien peigné. Et j'aimais bien leur façon de chanter, très euphorique, extrêmement rapide, rythmée, enlevée d'une telle joie. Alors que dans ma famille, qui était une famille de petits bourgeois, provinciale, la joie n'était pas une valeur cardinale.
Vous êtes habité par John Lennon grâce à cette chanson?
Entre autres, c'est lui qui m'a appris la rage, c'est lui qui m'a appris l'ironie, et je suis sûr que dans ma voix, il doit y avoir des intonations nasales qui viennent de John Lennon, l'accent de Liverpool. Et cette chanson, voilà ce que j'aime en elle, c'est que à chaque fois je découvre des choses, je découvre des interférences radiophoniques qui se mêlent à la fin, de des crescendo, des arythmies, et tout ça, je me dis, waouh, ça j'avais pas entendu. Donc j'ai pas fini d'écouter cette chanson.
I am the Walrus des Beatles, c'était donc Frédéric, le choix du critique gastronomique et romancier François Simon.
Qui vient de publier Le silence de l'amour, c'est publié aux éditions des Équateurs.
Le feuilleton 5 Français dans la campagne, quel candidat, quel thème les intéresse? D'ailleurs, la politique les intéresse-t-elle? Nous les retrouverons régulièrement jusqu'en avril. Deuxième série de rencontres jusqu'à vendredi. Hier, c'était Simon, 28 ans, qui pour l'instant s'apprête à voter blanc. Aucun candidat ne trouve grâce à ses yeux. Aujourd'hui, Marie-Claudine, plus engagée. Elle est élue locale, conseillère municipale à Montsauche-les-Sétons, la première terre d'élection de François Mitterrand dans le Morvan. C'est une femme de gauche modérée qui a voté Macron il y a 5 ans, déçue depuis. Plus engagée donc que Simon, mais il y a un mais. Antoine Gignot est allé la retrouver à la mairie sous un temps dégradé, ce qui amène à parler de climat et de l'union toujours aussi hypothétique de la gauche.
Bonjour. Et bien quand ça tombe, ça fait pas semblant.
Une vraie expédition.
Ah oui. Allez, on va se mettre à l'abri dans la mairie.
Bonjour mesdames.
Dans le bourg, on se rend peut-être pas bien compte, mais moi j'ai fait un tour en sous-bois ce matin, je pense qu'il y a une bonne vingtaine de centimètres. L'année dernière, on n'avait pas eu ça et ça fait plaisir parce que le Morvan, il est tellement beau sous la neige.
On l'évoque souvent dans les Alpes, dans les Pyrénées, mais ici, si vous comparez avec la situation que vous aviez connue quand vous étiez enfant, on voit la différence ?
Oui, quand j'étais enfant, je me souviens que tous les hivers, il y avait de la neige qui restait peut-être pendant 2 mois, voire 3. C'était tout à fait normal.
Ces préoccupations-là, pour vous, elles sont au cœur de l'élection présidentielle ? C'est vraiment une des priorités ?
Le réchauffement climatique, je pense qu'on ne fait pas assez attention. C'est très très important. Il n'y a pas beaucoup de candidats qui se penchent vraiment sur la question, ou alors si peu, ils sont plus préoccupés par l'immigration, la sécurité. Pour moi, ce n'est pas l'enjeu principal.
Quand vous entendez Yannick Jadot parler d'écologie sociale, Anne Hidalgo parler de social-écologie, il y a une vraie différence ?
Les différences entre M. Jadot et Mme Hidalgo, je ne sais pas si elles sont si importantes que ça. Je me disais, je vais attendre d'avoir les professions de foi pour vraiment lire de près. Mais j'ai l'impression qu'ils survolent un peu le problème, quoi. On a l'impression que c'est moi, je veux la place, moi, je veux la place. Pourquoi on ne peut pas se mettre autour d'une table et puis se dire, oui, on a chacun des bonnes idées, unissons-nous et faisons, entre guillemets, gouvernement d'union nationale. C'est vrai qu'on l'a déjà entendu, mais pourquoi pas? Mais si chacun campe sur ses positions et veut être sur le trône, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver.
Je fais le parallèle évidemment avec 1981, au moment où François Mitterrand se présente, c'est sur une candidature de rassemblement. Ici, il est venu dans cette mairie, vous l'avez vu. Ici, il n'y a pas le contexte, il n'y a pas le bon environnement pour que ça se passe aujourd'hui.
Malheureusement, il n'y a personne qui a une carrure ou une personnalité suffisamment forte pour faire un vrai rassemblement. La différence avec François Mitterrand, c'est que c'était un personnage un peu hors du commun, quoi. Après, bon, il a été ce qu'il a été, mais il avait su être la locomotive qui avait raccroché tous les wagons derrière lui. Et là, en 2021-2022, il n'y a pas un personnage capable de le faire. C'est ça qui est dommage aussi. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ne se déplacent même plus pour voter et qui regrettent que le vote blanc ne soit pas considéré comme vraiment une opinion. Mais je pense que pour cette présidentielle-là, on va atteindre un niveau d'abstention record.
Si on revient en arrière de quelques semaines, Arnaud Montebourg et sa proposition de bloquer les transferts d'argent venant des Western Union et autres entreprises qui permettent de basculer des fonds d'un pays à l'autre, son rétropédalage ensuite, Comment est-ce que vous, vous avez vécu ça?
Je voudrais pas que chaque candidat fasse une course à droite toute, et c'est presque à celui qui va faire le plus de propositions ou la proposition la plus à droite. Donc j'ai l'impression qu'il est un peu tombé dans le piège, et après bon, il a mis un peu de temps à se dire oui, je me suis trompé. Mais on a beaucoup relevé cette phrase-là, et par rapport à Zemmour qui sort des atrocités, on a plus parlé de Montebourg que Zemmour qui est en train d'inciter vraiment à une haine pas possible, quoi. De toute façon, je suis persuadée que si chaque candidat avait eu la même exposition médiatique, les sondages seraient complètement différents. Quand la campagne officielle sera ouverte, que les temps de parole seront vraiment décomptés, on verra à ce moment-là.
Le feuilleton 5 Français dans la campagne. Demain, nous retrouverons l'agriculteur David qui penchait du côté de Valérie Pécresse. Réalisation, Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Emmanuel Macron fait donc étape demain à Vichy avec l'intention d'évoquer dans l'ancienne capitale provisoire de Pétain un passé qui ne passe pas.
Bah, l'occasion ne s'est pas présentée si souvent pour un président. Si, en 59, le général de Gaulle avait marqué un arrêt dans la ville et prononcé quelques paroles sibyllines. « Je vais vous faire une confidence », avait-il dit. Il y a un peu d'émotion pour moi de me trouver ici, pour les raisons que vous savez. Et aussitôt, il avait ajouté, allez, enchaînons sur le présent. Parce que Vichy, depuis le développement de son thermalisme, s'est toujours voulu une ville du présent. Le vieux Vichy pèse de rien dans le dessin de l'urbanisme. Une tour, qui en subsistait, s'est écroulée, survit à peine sur une rive de l'Allier. Un logis moyenâgeux, sur la façade duquel des meurtrières énigmatiques dessinent une curieuse croix de Lorraine. C'est tardivement que Napoléon III a donné le branle à la station, et ensuite on a planté des arbres, encore toujours des arbres. Vichy, c'est ici l'ombre. Autour de 1900, une ville a surgi, à un rythme américain, avec son casino et son théâtre, une des plus belles salles de spectacle de France, où en juillet 40, les parlementaires, à l'exception de 80, abdiquèrent la République en conférant les pleins pouvoirs à Pétain. Et puis les services de l'État français se sont installés au hasard des villas et des hôtels. Dans le hall de l'un d'eux, un sénateur désœuvré reconstituait en 40-44 avec des allumettes la cathédrale de son département perdu.
Et en novembre, une association d'histoire, le CIERV, évoquait devant un vaste public vichysois la libération de la ville.
Et son animateur, Michel Proméra, expliquait qu'il ne s'était en fait pas passé grand-chose. Le maréchal avait été emmené depuis un moment par les Allemands qui étaient partis à leur tour. Une administration avait été aussitôt établie par des militaires et des hommes qui avaient œuvré auparavant pour l'État français, qui s'était progressivement devenu assez avéré vichisto-résistant. La ville, inquiète pour sa réputation, n'aurait pas été hostile à une épuration sévère, à condition qu'elle montre que les crimes avaient été commis par des personnes qui n'étaient pas originaires de Vichy. Vichysois, habitant de Vichy, ça n'équivaut pas à vichiste.
Et dans ces années 50, le fait que Vichy ait été capitale de fait, sous le régime du même nom, importe paradoxalement moins qu'aujourd'hui.
Oui, le tourisme reprend dans ces années 50. Un brillant festival de musique anime la saison qui attire beaucoup d'Européens du Maroc, de Tunisie, d'Algérie. Toujours le goût de la fraîcheur, ici, l'ombre. Vichy était, à sa manière, une capitale de l'Afrique du Nord. Et il faut chercher là une origine, j'allais dire une source de la divergence qui va se creuser entre la mémoire locale et la mémoire nationale. Beaucoup de pieds noirs qui venaient l'été s'installèrent à demeure après l'indépendance algérienne jusqu'à constituer peut-être 10% de la population. Et une conjonction se produisit entre les antigaullistes des années 40 et les antigaullistes d'Algérie. Ce sont souvent les mêmes qui entretiennent l'appartement de Pétain à l'hôtel du Parc et la tombe du général Salan enterré à Vichy.
Et la mémoire de l'État français, loin de s'effacer, est réactivée à partir de la fin des années 70. On peut penser au film Le Chagrin et la Pitié ou au livre de l'Américain Paxton.
Alors la municipalité de Vichy réagit en s'obstinant dans le silence, notamment à l'époque de Claude Maluret. Mais son successeur, Frédéric Aguilera, qui recevra demain Emmanuel Macron, choisit une autre stratégie que lui impose d'ailleurs l'inscription réussie de Vichy au patrimoine mondial de l'UNESCO avec d'autres stations thermales. Il accompagne par exemple le CIERV dans son exploration du passé de la ville. Lors du dernier colloque de cette association, Audrey Mallet, jeune historienne de la mémoire de Vichy, a montré ce qu'il advint des Juifs qui avaient cru pouvoir s'installer à Vichy. Eh bien, 175 d'entre eux furent déportés, dont 140 Français. Je dis ça en référence aux propos de qui vous savez. Seuls 15 sont revenus. Pétain à Vichy, décidément, n'a pas fait du bien.
Le livre d'Audrey Mallet, Vichy après Vichy, paru chez Belin. Les coordonnées du Cierve sont sur notre site. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Une figure de l'écologie à vos côtés tout à l'heure.
Voilà, nous allons regarder l'écologie vue du ciel avec Yann Arthus-Bertrand.
À tout de suite.